Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bonjour et bienvenue dans Tap 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 qui est là, podcast aujourd'hui présenté par Élise Roger et par Marie Bernanos, enseignante-chercheuse spécialiste de théâtre jeunesse et présidente de l'association Théâtre à la Page. Bonjour Marie.
Bonjour Élise.
Nous sommes sur Radio Campus 90.8 pour vous parler de théâtre et d'œuvres écrites en direction de la jeunesse. Pour cette sixième émission de la saison, nous recevons Catherine Zambon, comédienne et autrice, entre autres de la pièce Sissi Pieds Jaunes, parue en 98 à l'École des Loisirs et à la sélection cette année de Théâtre à la Page. Bonjour Catherine, vous êtes avec nous au téléphone.
Eh oui.
Marie, bonjour à vous. Je te laisse présenter son parcours.
Tout à fait. Alors Catherine, donc, a un long parcours riche. J'ai compté, alors j'espère que le nombre est juste, 14 pièces, qu'on peut dire généralistes, 16 jeunesses, avec une sorte d'équilibre qui n'est pas inintéressant. Et puis une pièce d'ailleurs dont j'ai découvert qu'elle était dans les deux cas, l'épouvantail, dans Fantaisie potagère, ce qui dit des choses. Et donc j'avais envie, alors tout au long de ce parcours d'écriture, tu as eu aussi une formation initiale de comédienne, ouais. Également un travail en direction de la scène. Comment s'est construit ton parcours et quelle relation à l'écriture ?
Alors, en fait, l'écriture est dans ma vie depuis très longtemps. Je pense que dès que j'ai su et commencé à apprendre à écrire, j'ai commencé à écrire. Et je pensais d'ailleurs que tout le monde écrivait largement autant que moi. Donc, l'écriture a toujours été dans ma vie. Ce qui ne l'a pas été toujours, bien sûr, c'est le théâtre, puisque c'est une chose que j'ai découverte beaucoup plus tardivement. Et lorsque j'ai découvert le théâtre, j'ai fait des études donc pour être comédienne, actrice. J'ai fait un conservatoire à Lille et tout naturellement, je dirais que puisque j'écrivais déjà et encore, à un moment donné, ça s'est rejoint. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'écrire pour la scène parce que je trouve que c'est un lieu d'écriture qui est à la fois convoque la solitude, bien sûr, puisqu'on écrit toujours, enfin moi j'écris seule, mais quand même permet le rassemblement. Donc je pense que ce mouvement à la fois de solitude et de rassemblement était déjà pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Mais vraiment, je pense que c'est la scène qui m'a tout appris de l'écriture théâtrale en tant que comédienne.
Voilà. Et quelle place pour le travail de clown, puisque c'est aussi une partie de ton expérience. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vois ça dans ton écriture ?
Alors au départ, le clown, c'était dans le cadre d'une formation que j'avais faite pour être animatrice socioculturelle. Donc j'avais une petite vingtaine d'années, c'est avant le conservatoire. Et ça a été un coup de foudre parce qu'en fait, c'est ça qui m'a mise en scène, qui m'a propulsée vers la scène. J'ai fait un premier stage de clown et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je n'avais jamais fait de scène et tout naturellement, je ne sais pas pourquoi, les gens riaient de me voir totalement en scène. À l'époque, j'étais très ronde, toute frisée. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic qui s'est passé avec le goût de la scène. Après, j'ai fait mon mémoire d'ailleurs d'étudiante là-dessus, mais je m'en suis éloignée parce que je trouvais que c'était pour moi certainement trop restrictif en tant que comédienne. Mais j'ai gardé une immense tendresse pour le clown, pour cette figure de clown qui est complexe, qui est extrêmement riche et voilà. Après, je pense que ça a parfois agi dans mon écriture, notamment dans les balancelles où il y a des figures comiques comme ça qui reviennent de manière récurrente dans mon écriture, qui empruntent effectivement à la figure clownesque. Mais maintenant, j'en suis assez éloignée, en fait. Mais j'ai aussi donné des cours, entre guillemets, des ateliers d'écriture pour des gens qui étaient dans l'art du clown, en collaborant avec Alain Gautré. Et voilà, donc ça, c'est une tendresse ancienne, on va dire.
Et le rapport à la mise en scène, est-ce que tu as réalisé des mises en scène et
absolument.
Et oui, quel rôle, là aussi, dans l'écriture ?
Alors en fait, la mise en scène, j'ai mis en scène Très longtemps, j'étais metteur en scène à Valréas, où on avait des ateliers qui, à l'époque, c'était une vraie grâce, duraient 5 semaines presque, où c'était pour des amateurs et c'était merveilleux. Donc là, je pense que je me suis beaucoup, beaucoup amusée à mettre en œuvre mes désirs de mise en scène. Et j'ai fait plusieurs mises en scène. J'ai mis en scène notamment le dernier travail que j'ai mis en scène, c'était sur mon texte des Agricoles. Donc, évoque le monde de l'agriculture. Et donc j'ai fait ça, j'avais aussi mis en scène il y a très très longtemps un autre de mes textes appelé Catherine et tout. En fait, j'ai surtout mis en scène mes textes, j'ai mis en scène les inavouables, mais la plupart du temps c'était en fait des demandes. Je pense que j'adore mettre en scène, mais je n'ai jamais eu envie de monter une compagnie, de faire vivre une compagnie. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd et ça empiétait énormément sur mon travail d'écriture. Et là aussi, évidemment, être actrice m'a permis de, je pense, d'écrire plus facilement du théâtre, et mettre en scène m'a permis de peut-être mieux comprendre des formes d'architecture, de trouver de la liberté, oui, je pense, oui. Mais vraiment de trouver de la liberté, de sortir du cadre d'une écriture trop littéraire peut-être. Et de même qu'écrire a énormément enrichi mon travail d'actrice, même si c'est plus du tout, je ne joue plus depuis presque 20 ans, et sans regret hein, d'ailleurs, mais je pense que ça m'aide énormément quand je dirige des auteurs, des acteurs et actrices.
Alors, dans ce beau parcours, comment est venue l'adresse à la jeunesse? Comme je le disais, tu as publié beaucoup de pièces jeunesse.
Et, absolument.
Et même plus que les autres, oui. Même si les pièces jeunesse, elles s'adressent aussi à tout le monde, hein, bien évidemment.
Oui, oui, oui.
Je le rappelle toujours. Mais donc, comment est venue cette adresse? C'était quand tu as commencé à publier en collection jeunesse, c'était le début, pas tout à fait le tout début, puisque la collection de l'École des loisirs, elle a été créée en 95. Mais quand oui. même, c'était au début de cette collection. Donc, comment est-ce que ça s'est passé et quel regard tu portes sur cette aventure de l'époque en question?
Alors, en fait, c'est vraiment la congruence de deux choses. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je pense que c'est au départ une commande de France Culture d'écrire sur la thématique, je ne sais pas pourquoi, c'était Nelly Lenormand qui, à ce moment-là, avait une émission qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui était une émission merveilleuse, qui était à la destination des enfants et qui passait tous les samedis. Et j'ai dû être mise en relation avec Nelly, qui m'a demandé un premier texte. Et comme j'étais absolument passionnée d'ornithologie à ce moment-là et que je vivais avec une petite tourterelle, entre autres, donc ce premier texte jeunesse, cette première commande de France Culture m'a intriguée. Je n'avais jamais écrit pour la jeunesse. J'ai tout de suite pensé oiseaux, parce que je trouvais ça admirable de faire entendre des oiseaux en radio. Et je suis partie donc sur ce premier texte appelé La Bielleuse. Nelly a été tellement séduite qu'elle m'en a demandé 3 autres dans la foulée. Donc j'ai écrit ces 3 textes et par chance, Brigitte Smadja les a entendus ou on lui a communiqué ces textes-là. Et donc elle m'a demandé si on pouvait aller vers une édition. Mais au départ, je n'aurais, je pense, pas imaginé écrire pour la jeunesse. C'était quelque chose qui m'était assez étranger. Et en fait, ça m'a énormément plu. Je trouvais que c'était un exercice très difficile. Parce que quand le public jeune s'ennuie, il le fait savoir très vite.
Oui.
Que j'avais envie d'écrire non pas pour la jeunesse, mais depuis ma jeunesse, c'est-à-dire de vraiment travailler sur qu'est-ce qui, à moi, m'avait manqué comme récit pour me construire, qu'est-ce qui avait pu m'être invisible ou voilà, et avec ce souci absolument permanent de pas prendre les enfants pour des petits êtres tendres et mignons, mais d'oser aborder pour eux, avec eux, et depuis mes enfances, d'aborder des choses qui pouvaient me faire grandir sans avoir peur d'aborder, de rencontrer le loup, l'ogre, ou voilà, mais avec toujours cette volonté, mais qui parcourt toute mon écriture, c'est-à-dire que ne pas terminer, ne pas fermer sur de la noirceur et toujours donner des outils de ce qui est devenu après un peu mon fond de commerce, mais c'est vrai que des outils d'éveil, des raisons de se mettre debout et d'embrasser la vie avec amour et bonheur.
Oui, c'est très joli là ce qu'on entend et c'est quelque chose qui me fait dire souvent que le répertoire de théâtre jeunesse, c'est la partie la plus consolante du théâtre moderne et contemporain. Oui. Et je crois que c'est vrai. Consolante au sens philosophique du terme. Oui. Comment regarder la noirceur du monde, mais ne pas se laisser engloutir par cette noirceur. Oui. Alors, tu parlais de la bielleuse. Comment s'est construite l'aventure assez étonnante de la tétralogie autour des oiseaux? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette étrange aventure?
C'est toujours Nelly Le Normand, donc France Culture. Elle a reçu la bielleuse avec cette histoire de tourterelle qui était donc qui a été mon inspiratrice, hein, puisque j'avais une petite tourterelle à ce moment-là qui vivait avec moi, qui était en liberté dans la maison, qui était sur mon ordinateur. Et c'est Nelly qui m'a dit: est-ce que tu peux écrire 4 textes avec des oiseaux? Ça me paraissait énorme. Ça m'a occupé au moins 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que j'adore les oiseaux, bien sûr, et que je trouvais surtout extraordinaire d'aller en studio d'amener des chants d'oiseaux, parce que pour moi il était absolument hors de question de faire parler des oiseaux. Ils ont leur langage, on a le nôtre, et je voulais absolument pas faire d'anthropomorphisme. Oui. Surtout pas. Et je trouve que j'aime trop la vie animale pour la réduire à notre langage d'humain, je veux dire. Donc, j'ai cherché. Donc, il y en a une qui parle du deuil. La bielleuse est un magnifique récit d'amitié et d'espérance. Donc, j'ai construit, je me suis laissée guider. J'ai convoqué des aigles, des rossignols.
Une oie,
l'oca, qui parle de l'immigration. Avec déjà, là aussi, ce qui allait fleurir dans mon écriture, à savoir des thématiques sociétales et sociales.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, dans le regard que tu portes sur ton écriture, quelle relation entre la partie adressée à la jeunesse et travaillée avec la jeunesse et le reste de ton théâtre?
Alors, c'est une vraie question. C'est une surprise en plus en ce moment pour moi, parce que Brigitte Smadjak, qui était plus qu'une éditrice pour moi, qui était aussi une amie, me disait ces dernières années: écris absolument, parle aux enfants de l'état du monde, parle de l'engagement, parle, puisque c'est quand même une encre pour moi indispensable ces dernières années. J'ai essayé d'écrire. Pas seulement pour faire plaisir à Brigitte, mais je pense qu'elle avait un très bon instinct, elle me poussait dans mes retranchements, et je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à écrire du théâtre pour la jeunesse. En tout cas, comme je l'avais écrit. Je trouve que Mon frère, ma princesse est une très très belle pièce, et je pense qu'elle a été tellement jouée, je la trouve tellement... Je dis rarement ça sur mon écriture, mais je trouve que c'est une pièce presque parfaite.
Oui, elle est très aboutie. Oui.
Voilà, donc je me disais quoi écrire après ça, sur l'environnement, enfin, voilà. Nous avons enterré Brigitte en février l'an dernier, et le lendemain de son enterrement, j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. J'ai recommencé à écrire pour la jeunesse. Et ce qui est arrivé, pas du tout du théâtre. Et ce qui est arrivé est un... Je savais, c'est très rare que j'écrive des choses qui ne soient pas théâtrales, Et ce qui est arrivé est un roman, en fait, et qui va être publié normalement chez Actes Sud l'an prochain en jeunesse. Petit roman, hein, donc, mais qui parle justement du rapport à l'environnement. C'est un texte un peu audacieux parce qu'il y a aussi évoqué de manière très très forte la violence policière. Donc encore une fois, je me disais ça va pas être publié, c'est trop et ce sera normalement publié en 25.
D'accord. Mais
j'avais vraiment conscience que je quittais la scène, mais peut-être avais-je besoin de quitter la scène pour retrouver l'écriture jeunesse. C'est plutôt un texte pour les adolescents, je pense. À partir de 14-15 ans.
D'accord.
Donc, je pensais que ça s'était un peu éloigné de moi, et ben pas du tout. C'est revenu.
Alors, c'est étrange parce que dans ce que nous avons prévu, la suite concerne tes relations à la généalogie familiale. Et là, tu viens de parler d'une forme de transmission de Brigitte Smadja à toi et de toi à elle. Et je trouve que c'est quelque chose de touchant que de voir que... c'est le lendemain de son enterrement que se déclenche quelque chose. Ouais.
Et c'était une grande, un immense chagrin de perdre Brigitte, et en même temps, son enterrement a été un moment de très beau, parce que j'ai trouvé que sa famille était très proche de moi, enfin, très proche des gens de sa famille, et j'ai eu, alors que j'arrivais vraiment un peu comme, voilà, il y avait beaucoup de monde, et j'avais la sensation que, à travers des membres de sa famille, elle me disait, oui, elle me parlait de son amitié et de son, voilà, elle me parlait de son amitié. Donc c'était très, 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 très fort pour moi, très, très fort. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai commencé à écrire.
C'est peut-être l'occasion de dire pour les enfants qui écouteront ce podcast, quel que soit leur âge, quelle est la place, l'importance de la place des éditeurs dans la construction du répertoire jeunesse. Et alors là, maintenant, on sait que la collection jeunesse, la collection théâtre de l'École des loisirs va continuer grâce à celle qui était l'assistante de Brigitte Smadja. Mais souvent, les enfants ne s'en rendent pas compte, parfois les adultes, hein, à quel point les gestes éditoriaux sont des gestes importants et aussi dans l'humain que ça représente.
Ah, mais complètement, complètement. C'est vrai que pour moi, c'est absolument indispensable. Quand on confie un texte... un éditeur, on attend des retours d'amitié, on attend des retours aussi de professionnels. Enfin, ça peut être parfois Brigitte avait des retours extrêmement exigeants et c'est formidable. Oui. Et puis et tout ça dans une espèce de bienveillance. Je retrouve chez François Martin, chez Actes Sud, ce côté extrêmement bienveillant, extrêmement chaleureux, extrêmement respectueux. C'était très 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 touchant pour moi. Et sans ça. Sans ce lien-là, il y a aussi ça chez Thierry Magnier. C'est hyper important. On confie quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement fragile. On est très vulnérable. Enfin, moi, je suis très vulnérable.
Et d'intime.
Quand je confie un texte. Et voilà, et bien sûr, et d'intime. Et on peut se tromper, en plus. Mmh. Par exemple, Brigitte, dans La maison de l'ogre de monsieur, qui est un texte très difficile et extrêmement autobiographique. Je pense qu'il est un peu infernal et impossible à monter, quoique. Dans un premier temps, elle avait rien compris. Et je lui dis, t'as lu trop vite. Je lui dis, je pense que t'as lu trop vite,
oui,
parce que
ça arrive.
Tu me fais des retours. Tu me fais des retours qui sont. Je comprends rien ce que tu. Et elle l'a relu, elle s'est excusée, et il a été publié.
Oui, moi ça me paraît normal. Parce
que... Alors c'est vrai qu'il est complexe, il demande une attention particulière.
Oui, oui.
Et je l'aime beaucoup, mais il est très personnel, il est très très. Il n'a jamais été mis en scène, et. Ça parle de la mort, de la disparition, oui. De la crainte. Oui. Voilà. Et c'est vraiment un texte... Je pense qu'elle a eu envie aussi de l'éditer parce qu'elle savait que pour moi, c'était un texte très, très autobiographique.
Alors, pour continuer sur ce fil-là, peux-tu présenter à ceux qui écouteront cet entretien ton goût pour les questions de généalogie familiale et comment est-ce que ça joue? Comment jouent les questions de transmission comment c'est une forme de quête vitale qui traverse ton théâtre, en fait?
Qui traversait, j'ai presque envie de dire, parce que je pense que maintenant, c'est un peu moins... ça reste un moteur qui me paraît moins visible, quoique peut-être que je me trompe. Mais enfin, en tout cas... Ce qui est certain pour moi, c'est que quand un personnage m'apparaît, parce que c'est comme ça que ça apparaît pour moi l'écriture, c'est que quelqu'un me parle, quelqu'un arrive, on appelle ça un personnage, en tout cas une voix. Ça n'arrive, je me dis jamais je vais écrire sur ça, ça n'existe pas pour moi. Je me dis pas je vais écrire sur un thème, ça m'est totalement étranger. Je fais pas de plan. Et quand je me mets à écrire, à un moment donné, il y a toujours un personnage qui arrive. Et quel qu'il soit, quels que soient les éléments que je vais prendre de son histoire dans mon récit, la généalogie est hyper importante pour moi. C'est-à-dire, je vais vraiment réfléchir à quand il est né, à quelle période il est né, qu'est-ce qu'il y avait dans sa famille, qui étaient ses aïeux, même s'il n'y a rien qui va apparaître dans le texte. Je fais une espèce de bible, hein, je pense, un peu comme on appelait ça une bible, comme au cinéma. Donc, je pense que même aujourd'hui, si ça n'apparaît pas, la généalogie, pour moi, est très, très importante. On ne naît pas de rien, on n'est pas dans une histoire... Enfin, on a tous une histoire qui va totalement influer. Donc, je pense que il y en a encore des traces aujourd'hui. Après, pour moi, la généalogie, mon premier texte qui n'est pas du tout édité, était un hommage à mon père qui venait de mourir. Ça s'appelle « Le jardin d'agrément ». Et je pense que J'écris vraiment depuis, je pense, depuis mon histoire d'immigrée italienne, mon histoire de fille de maçon italien. Et je crois que l'histoire familiale fonde tant et tant et tant et tant de choses, et aussi dans ses mystères, dans ses parties cachées, dans ses violences, dans ses exaltations. Ça crée ce territoire imaginaire de l'enfance, et je pense que c'est une richesse inouïe. En tout cas, pour moi, on n'existe pas sans racines. Quoi. Enfin, on ne peut exister sans racines, mais je veux dire, les racines sont une richesse formidable pour un écrivain.
Mmh, mmh. Est-ce que tu pourrais, alors c'est pas tout à fait la même chose et en même temps ça se rejoint, moi j'ai été frappée, on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble là-dessus, du projet lié aux habitants, enfin qui a donné la pièce Les Habitants, qui est un projet assez atypique, enfin dont je ne connais pas d'autres exemples. Est-ce que tu peux raconter cette aventure d'écriture spéciale?
Alors, Les Habitants, j'ai eu l'idée. Mais ça vient aussi de mon histoire d'enfance. Mon père était maçon et quelquefois, on allait visiter les immeubles qu'il construisait avant que les gens y habitent. Quoi. Donc, comme il était maçon, il était chef de chantier, il avait quand même un peu pris du grade. Et donc, on allait dans des appartements complètement vides. Voilà. Donc, j'avais une espèce de fascination pour ça. Je suis écrivain, donc évidemment, imaginer des appartements vides et de savoir que des gens vont vivre dedans, mais c'est une machine à rêverie absolument infernale pour moi. Et l'hiver, j'ai toujours adoré l'hiver dans les villes, regarder par les fenêtres, voir les gens qui mettaient la table, enfin, pas dans un truc voyeur, mais de me dire, j'aimerais bien vivre 3 heures avec eux, voir ce qui se passe dans la maison. Et un jour, j'ai osé en faire un projet d'écriture, c'est-à-dire que ma demande était que des directeurs de théâtre, des associations me trouvent des maisons, des appartements, dans des régions diverses, je leur demandais de ne pas du tout rencontrer les personnes, je ne voyais pas les gens. Ils me laissaient leur maison pendant 3 heures. Je promettais de ne rien fouiller. Ils me mettaient où ils voulaient, mais je demandais quand même qu'il y ait une fenêtre, parce que j'avais peur qu'on me mette dans une cave ou je sais pas où, une prise pour mon ordinateur, de l'eau et l'accès à un WC. Parce que je restais 3 heures, voilà. Et donc, je restais pendant 3 heures. J'avais tout un protocole que j'avais mis en place, vraiment très, très précis, un peu obsessionnel. Je m'asseyais là où on me disait de m'asseoir. Voilà. Et je prenais, voilà, j'avais tout un protocole. Et je revenais donc 3 mois, 4 mois plus tard pour lire l'histoire à l'habitant que je découvrais à ce moment-là. Ça a été totalement insensé, cette histoire. Parce que dans 4/5 des cas, je racontais des histoires qui s'étaient passées dans la maison. Il y avait des coïncidences absolument extravagantes, quoi, vraiment. Donc, quand je revenais avec mes histoires, par exemple, la première histoire se passait dans une ferme. J'ai bien vu que c'était une ferme, j'étais au milieu des pommiers. Et je me doutais qu'il y avait une dame âgée. Et j'ai écrit un premier texte qui s'appelle Noce, qui est un très joli texte, où dans cette maison, un homme est en train de mourir. Et quand j'ai lu l'histoire à la dame, Dieu merci, l'intermédiaire avait aussi lu mon histoire et il avait prévenu la dame de mon récit. Dans la maison où je suis allée, il y avait un homme en train de mourir. Par exemple, ça c'est mais après il y a eu plein de croisements, des histoires j'avais imaginé qu'en face de la maison où j'étais, il y avait eu un meurtre. Et de fait, il y avait eu un meurtre. Des trucs complètement hallucinants, vraiment. Ouais. C'était très, très, très troublant. Ça m'a beaucoup troublée. Ça m'a beaucoup questionnée sur la capacité, entre guillemets, de captation presque médiumnique qu'on peut avoir quand on disparaît à soi-même pour être totalement dans l'écoute. Mais c'était une histoire merveilleuse. Enfin, c'était très, très beau à vivre. Très, très, très vampirisant. Très vampirisant. Et surtout, comment écrire une histoire dans une maison magnifique si on veut faire une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il y a de la tension. Donc, je prévenais les gens, je leur disais, je vais peut-être foutre un bazar pas possible dans votre maison. Enfin, virtuellement. Oui. Des maisons, j'ai fait prendre, voilà, il y a des maisons qui prennent feu, il y a des maisons où il se passe des trucs pas possibles, voilà. Donc je leur avais dit, vous inquiétez pas, c'est juste un décor à votre maison, je vous prédis pas l'avenir. Mais c'est vrai que sinon, je devais leur dire ça, sinon je n'osais rien écrire. Je voulais,
ben oui. Voilà.
Il n'était pas question d'écrire des jolies petites histoires mignonnettes dans leur joli salon, mais plutôt d'imaginer un truc insensé qui pourrait se passer là. Donc ça m'a demandé de prendre sur moi, d'oser salir leur lieu, voire de le démolir, voire d'y mettre des gens. C'est une expérience, il y a longtemps aussi, mais assez... Et ça participe chez moi de, d'une... Parfois, j'ai besoin d'être totalement immergée pour écrire. Et ça a été ma première immersion. Après, ça a été les agricoles, où là, j'ai vraiment... J'ai vécu 6 mois quand même avec des agriculteurs, hein, oui. 15 jours par mois, où je travaillais, je vivais avec eux en Lozère, etc. C'était une immersion très grande. Et pour Nous étions debout, mon dernier texte, l'un de mes derniers textes, qui parle des luttes, pareil, j'ai été immergée dans des ZAD, dans des lieux de... Enfin voilà, l'immersion pour moi, l'information livresque documentaire n'est pas suffisante, il faut que j'ai de l'humain.
On peut d'ailleurs préciser, pour, là aussi pour les, ceux qui nous écouteront, qu'une partie de ce projet des habitants s'est fait avec le festival de Saint-Antoine-l'Abbaye.
Absolument.
Dans un cadre, puisque ce festival continue à exister et bien exister. Et donc voilà, c'est important de le dire.
Nous avons encore plein d'autres questions à vous poser, mais d'abord on va écouter le début de votre pièce Sissi Pieds Jaunes, qui a été lue par des étudiantes et des étudiants en L1 d'art du spectacle à l'UGA, dans le cadre de leur cours sur le théâtre jeunesse.
Personnage, Lionel, enfant de 7 ans. La mère, Gisèle. La mariée, Nicole. Sissi Pieds Jaunes, 10 ans. Sissi est une petite fille sourde-muette. Elle s'exprime en langue des signes. Il est évidemment préférable que l'actrice qui aura à interpréter ce rôle connaisse la langue des signes. Dans le cas contraire, l'utilisation d'un dictionnaire des langues des signes sera bienvenue.
Lieu, intérieur d'une maison, jardin, bord de Saône. Première séquence. Chambre de Lionel. Devant lui, des vêtements. Il tient à la main un objet, mi-poupée, mi-chiffon. C'est Mélie. Il lui parle. Il l'anime, comme une marionnette. Parfois, il semble l'écouter. Il est important que cet objet soit usé, qu'on sente qu'il a été beaucoup manipulé. Lionel chante. Il est en pyjama.
Lionel. Dans l'herbe broute, la tortue nue. Et dans le foin, la puce piquée. Dedans, la motte, le ver filou, et dans tes livres, des mots partout. Écoute ça, Mélie, ma traduction.
Il recommence à chanter, en hésitant, comme s'il a inventé les paroles au fur et à mesure. Il anime Mélie qui acquiesce.
In l'herba bruta la tortue. Pas mal, non? Et dit les fouines, li pousse picou. Din la mouti. Din la mouti, li ver filou. Aïou, aïou! Et dans tes livres, des quotes partout. Ça t'épate, non?
Mélie acquiesce.
Je voudrais parler toutes les langues, Mélie. Comme ça, lorsqu'on ira dans le monde entier, on sera compris de partout. Chine, Canada, Italie, Marseille et le Brésil, bien sûr, surtout le Brésil. C'est là qu'on ira, Mélie, au Brésil. C'est là que je retournerai un jour, avec toi, bien sûr, en bateau, d'accord? Plus tard, je serai curieux. Maman dit que... Ce n'est pas un quitier, un métier. Curieux, on verra ce qu'on verra, Mélie. Le Pacanaïma, c'est aussi une sorte de langue, Mélie. La langue secrète que j'ai inventée. À part toi, personne ne la comprend. On est deux. C'est déjà un début.
La mer.
Au loin.
Lionel, tu te dépêches?
Lionel se dépêche d'enfiler la chemise, le pantalon. Il fait un peu tout de travers.
Je n'aime pas les boutons. Surtout aux cuanches, aux manches. À quoi ça sert? Me dépêcher, me dépêcher. Impossible de me dépêcher. Il est trop serré, ce pantalon. Il me bloque les chevilles. Pourquoi il ne se marie pas demain, Victor? Demain, c'est dimanche. Et le dimanche, c'est le jour de l'église, pour ceux qui y vont. Et le samedi, c'est mon jour d'aviron. Pas de Victor, pas de moniteur, pas d'aviron. C'est super, l'aviron, Mélie. Tu verrais ça. On va plus vite que les cormorants sur la Saône. Eux, ils sont là-haut, ils nous regardent. Et nous, en dessous, Hop là, on les bat à la course. Sauf que la dernière fois, on est tombé à l'eau. Mais ça, tu le sais déjà, toi. Les poches sont trop petites. Où je vais te fourrer, Mélie ?
La mère, Gisèle, entre. Un peu agitée, elle a des bigoudis sur la tête.
Lionel, tu feras attention à ne pas salir ta chemise, chérie. Tu n'es pas encore prêt ? La messe est dans moins d'une heure.
Et si je mettais mon short orange, maman ? Celui qui a de grandes poches sur le derrière. Il est super pour l'aviron. Victor dit que...
Aujourd'hui, Victor se marie, Lionel. Aujourd'hui, Victor n'en a rien à faire de l'aviron. Aujourd'hui, tu t'habilles pour un mariage. Ton père est témoin. Je sais qu'il s'en moque comme de sa première chemise, mais on a prévu d'aller à la messe et on ira à cette meuf. Entendu ? Je suis pressée, je n'ai pas fini de me coiffer, j'ai filé mes bas et j'ai perdu mon rouge à lèvres. Alors tu vois, si c'est le moment de me parler de ton short, tu boutonnes ta chemise blanche et tu enfiles le pantalon noir que mamie André t'a offert à Noël. Tu prends tes souliers vernis et ta veste, vite, vite, vite s'il te plaît.
Pourquoi pas mon t-shirt violet, maman ? Et mes baskets vertes ? Ça irait d'enfer avec le pantalon de Kouami. Oh ! Pardon, de mamie.
Ce n'est pas un carnaval et je ne veux pas que mon fils ait l'air d'un clown, c'est clair ?
Mais maman, c'est noir, c'est nul, c'est moche, c'est vieux.
C'est élégant.
Sonnerie de porte.
Mon Dieu, ton père arrive avec les fleurs et je ne suis pas prête. Tu t'habilles, oui, ou crotte ? Et pas question d'emmener Mélie. Message reçu ?
Il acquiesce, elle sort.
Ta 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 !
Tout de suite, les questions, les réponses.
Vous êtes toujours sur la 90.8 dans Tap 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 qui est là, l'émission Théâtre Jeunesse de Théâtre à la Page. Et vous venez d'écouter le début de la pièce de Théâtre Jeunesse Six Pieds Jaunes, à la sélection de Théâtre à la Page cette année, et écrite par Catherine Zambon, avec nous en ligne. Donc maintenant qu'on l'a écouté, parlons un petit peu de votre pièce Six Pieds Jaunes, dont nous venons d'entendre l'extrait. Comment il est né ce projet d'écriture ?
Alors, ce projet d'écriture, au départ, c'est aussi à l'invitation de France Culture, et c'était à l'époque, je crois, pour célébrer les droits de l'enfant. Je sais pas, c'était un anniversaire important et Nelly Lenormand m'a demandé si ça m'intéressait de faire une pièce, je crois. Alors, est-ce que c'était ça? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, au départ, c'était un monologue. C'était la demande d'un monologue. Donc, la pièce originelle, au départ, c'est vraiment un monologue où il n'y a que Lionel et c'était une création radiophonique. Donc, là, il n'y avait que Lionel. Et puis, Brigitte Madja, donc éditrice de l'École des loisirs, l'a entendue et a été très intéressée pour la publier, mais elle a voulu que j'en fasse une version plus scénique. Donc,
dialoguer.
J'ai rajouté, plus dialoguer. Mmh. En même temps, dialoguer, c'était complexe puisque Six Pieds Jaunes ne parle pas. Donc, c'est un texte, du coup, il y a énormément de didascalies, d'indications scéniques. Et j'ai fait exister Mélie aussi pour pas que Lionel se mette à parler tout seul comme ça. Donc voilà, c'est un peu. Alors je sais plus si c'est voilà, c'est né comme ça. En tout cas, c'était à l'invitation de France Culture. Et au départ, la pièce fait 20 minutes, le texte fait 20 minutes à peu près.
Et l'idée de faire se rencontrer deux enfants, chacun avec son handicap. Social en quelque sorte et physique ouais. aussi. Comment c'est venu ouais. cette idée ?
Alors, m'est arrivé très très vite le personnage de Lionel qui avait des difficultés à s'exprimer, qui était dans une forme de dyslexie, même si c'est aussi parce qu'il s'est inventé un langage. C'est un enfant adopté, donc il était mal dans sa langue. Je me suis beaucoup inspirée d'un enfant que je connaissais à l'époque qui avait beaucoup de problèmes de d'apprentissage de la langue, qui était dyslexique, qui en fait était dyspraxique, on l'a su beaucoup plus tard. Il m'a beaucoup inspirée et j'ai eu envie de lui inventer ce jeu qu'il s'est fait à lui-même, à savoir de remplacer les M par des Q. M aimer, Q c'est la partie de l'amour qu'il faut pas nommer. Donc c'était vraiment un jeu entre le dit et le non dit. Enfin voilà. Donc je me suis moi-même beaucoup amusée avec ça. Et quand j'ai eu un peu élaboré ce personnage, je me suis dit mais qui est-ce qu'il peut rencontrer qui va vraiment le troubler? Et j'ai osé imaginer effectivement Sissi, qui est devenue du coup un personnage pour moi assez merveilleux. Petite fille assez rentre-dedans, voilà, un peu garçonne, un peu avec ses Doc Martens, enfin, qui ne se laisse pas faire du tout. Et qui en même temps, en existant près de lui, avec son langage particulier, sa langue particulière, va finalement le sortir de sa torpeur, de sa douleur, Et c'était aussi pour dire qu'on peut, ce qui arrive très souvent dans la vie, parfois on est aidé par un ou une qui semble beaucoup plus embarrassé que nous, ou plus malheureux, ou plus, voilà. Et Sissi est un personnage merveilleux, parce qu'il a une vitalité extraordinaire, d'une joie de vivre, qu'elle ne se laisse pas faire. C'était assez rare, hein, ces personnages à l'époque. On faisait rarement des petites nanas rentrent dedans. Donc je me suis beaucoup amusée avec ça. Et ça marche très bien, ça marche très très bien.
Alors dans la région, on a beaucoup vu Sissi Pieds Jaunes parce que à une époque, là, moi j'enseignais en collège à ce moment-là, la pièce a été montée par Yvon Chex qui était au Rio à cette époque-là, et la pièce est venue là avec la compagnie dans le collège où je travaillais. Ils ont fait travailler les jeunes. Je les revois encore monter sur des tables.
Ouais.
Dans l'espace de la classe. Et la réception par les... C'était des cinquièmes, ou je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était des cinquièmes. En tout cas, ils avaient adoré. Et le fait d'avoir travaillé des extraits avant de voir ce que faisaient les comédiens sur les tables et dans un espace qui était normalement l'espace de l'école, je suis sûre... Alors, je ne les ai pas revus depuis, mais je suis sûre qu'ils en gardent un grand souvenir. Oui. Est-ce qu'elle est encore beaucoup montée, cette pièce? Est-ce qu'elle a
pas énormément.
Son chemin? Oui.
Non, pas énormément.
C'est étonnant.
Oui. Et ben, je pense le fait qu'il y ait beaucoup de didascalies en rend la lecture pas évidente. Il faut vraiment avoir une affinité avec quelque chose qui a à voir avec le handicap, l'ostracisme. Je pense qu'elle est... Elle était très peu montée. En fait.
Alors que pourtant, comme tu l'évoquais tout de suite, c'est une pièce qui est vraiment dans l'air du temps, autant que Mon frère, ma princesse, dans le rapport au féminin, au personnage féminin, puis dans le rapport aussi à ce qu'un philosophe qu'on travaille, nous, au comité de lecture, appelle les invalidés, plutôt que la personne handicapée. Il revendique le terme d'invalidé, parce que ce qui veut dire que chacun de nous a sa petite part d'invalidé, et c'est un peu ce que raconte la pièce. Hein. Et est-ce que le fait qu'on ait une forme de théâtre dans le théâtre, dans cette pièce, puisqu'il y a la marionnette, on l'a entendu dans l'extrait, et puis toute la pièce est en fait un hommage au fait de se trouver en s'imaginant autre, en s'ouvrant à l'autre, en se transformant. Donc comment tu as pensé et ressenti dans l'écriture ce lien à une forme de théâtre dans le théâtre, en fait?
Je l'ai pas pensé comme du théâtre dans le théâtre au départ, encore une fois, puisque pour moi c'était un monologue. C'est quand il a été question de le déployer que là j'ai dû effectivement faire appel à parce que Mélie n'est pas dans la première version, parce qu'on en a pas besoin, puisque c'est un enfant qui parle. Donc c'est un enfant qui parle, qui s'exprime, voilà. Donc c'est fait pour la radio, c'est un gamin. D'ailleurs, quand c'est passé à la radio, il y a des gens qui, il y a une personne qui a écrit la radio qui voulait le consoler, lui dire que la vie n'était pas aussi difficile que ça. C'était très très drôle. Donc j'ai dû effectivement, et je pense que Brigitte m'a beaucoup invité à faire ça. J'ai pour qu'il y ait de la parole et qu'il y ait de la vivacité, j'ai créé Mélie, qui était une façon de... Mais du coup, qui a mis en abîme aussi encore plus la solitude de ce petit garçon. Parce que parler à son objet transitionnel, à son doudou... voilà, donc ça a été, je dirais, un stratagème pour faire passer d'une parole intime et monologue à une parole qui pouvait trouver place sur scène. Voilà, mais je ne me suis pas plus questionnée là-dessus, sur le théâtre dans le théâtre... ça a plus été un stratagème pour traduire ce monologue à la scène. Dialogue, en fait.
Et pourtant, quand on... À la réception, la pièce, elle fonctionne beaucoup là-dessus. Enfin, moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui me paraît jouissif, quoi, de voir un enfant, comme on voit des enfants, on dirait que tu serais, et moi je serais.
Absolument.
Et voilà, et c'est une façon de dire la vitalité de l'enfance qui se construit, quoi. Enfin, c'est à ça qu'on assiste dans la pièce.
C'est déjà écrire, presque. Souvent, les enfants me disent « Vous avez de l'imagination, comment vous avez commencé à écrire ?» Et je leur demande « Qui a un doudou parmi vous ?» Ils ne me disent pas toujours, ça dépend de leur âge, mais il y a des très grands qui ont des doudous. Et je leur dis, est-ce que vous lui parlez à votre doudou ? Alors, il y a toujours qui me disent oui, oui. Est-ce que vous lui parlez ? Donc, ils me disent un peu confus, un peu gênés. Ils me font oui. Et je leur dis, est-ce que ma question, elle est là, ma vraie question. Est-ce qu'ils vous répondent ? Alors là, ils sont très surpris que j'ose leur poser cette question. Et la plupart du temps, ils me disent oui. Ouais. Et je dis, ben voilà, c'est déjà ça, écrire. Ouais. C'est déjà faire du dialogue.
Ouais.
C'est déjà inventer, créer, voilà. Donc, effectivement, Amélie permet cette, ce subterfuge.
Oui, ouais. C'est une très belle pièce. Alors, Élise, question suivante.
J'ai une petite question. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est votre engagement et votre militantisme, notamment de la cause animale et de la cause écologique. Et vous avez publié un texte en 2017 qui a été réédité, « Nous étions debout et nous ne le savions pas », qui raconte ces vies militantes et de résistance. Ce n'est pas un texte qui a été édité dans une édition spécialisée jeunesse. Est-ce que vous pensez à une écriture en direction de la jeunesse sur ces thématiques ? Vous avez un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez un petit peu développer là-dessus ?
Alors oui, moi ça me paraissait important d'ouvrir ça à une jeunesse, parce que nous étions debout, on peut être lu à partir de 15-16 ans, hein, franchement, 14 ans même, voilà. Peut-être plus jeune, je ne sais pas, mais... Donc c'est vrai que c'était aussi une demande de mon éditrice Brigitte Smadja d'aller sur ce territoire-là de l'écriture jeunesse et de cette thématique-là. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je trouvais pas l'angle. Donc là l'angle est arrivé. Ça s'appelle Si j'étais un arbre. Et donc c'est un peu le parcours de deux ados, qui se retrouvent tout à fait malgré eux en train de participer à une action de non-violente dans une forêt, enfin voilà. Mais j'avais du mal à en faire une pièce de théâtre. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis éloignée d'écriture plus classique, ou que ce grand monde de la lutte, de la communauté de la lutte, est compliqué à mettre en scène. Il faut beaucoup de personnages, enfin voilà, montrer la communauté qui lutte, militante. Voilà, donc ça arrive à travers un roman qui va s'adresser pas au tout jeune public, quand même. Pas au tout jeune public, à partir de 14 ans, quand même.
Mmh, mmh. Merci. Est-ce que tu as une autre question, Marie ?
Non, je crois que nous avons abordé plein de choses qui vont permettre aux lecteurs de mieux se rendre compte de ce qui s'est passé en eux quand ils ont lu ou quand ils liront la pièce, parce qu'il y en a qui sont en train encore de les lire. Et je suis certaine qu'ils vont en tirer plein de choses pour être de meilleurs lecteurs et faire résonner des choses à l'intérieur de leur propre imaginaire. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille. Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil. Y'a comme un vide absolu qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même, comme une arène. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe, fais-moi signe. racine. Fais-moi signe. Je vous jure, je suis tout oui. Non, même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures. Des murmures. Face à vous, je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retiens mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Mes pulsions, fais-moi signe. Toi le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe. Deviens ma dernière chanson.
Ta ta ta. Tout de suite, les questions, les réponses.
Vous venez d'entendre Fais-moi signe de la chanteuse Oshi qui parle de sa maladie auditive et de la surdité, qui est un thème qu'on retrouve dans Six pieds jaunes de Catherine Zambon. Et vous êtes toujours bien sûr sur la 90.8 dans Tap 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 qui est là, l'émission qui vous parle de théâtre jeunesse. La fin de l'émission approche et c'est l'heure du petit point actualité de Théâtre à la page. Tout d'abord, on vous rappelle que du 18 au 20 mai prochain se tiendra à Laval le festival Palindrome consacré au théâtre jeunesse et jeune public, auquel Théâtre à la page sera présent. Vous y verrez des groupes de jeunes qui présenteront leur travail théâtral, mais aussi des compagnies professionnelles comme le Tourac Théâtre. Dans le cadre de ce festival est organisé un temps de colloque qui sera animé par Marie Bernanos les matins du 19 et 20 mai, et ces temps d'échange seront consacrés à la question de l'engagement dans l'adresse théâtrale à la jeunesse. N'hésitez pas à venir, ça sera super. Dans le cadre de notre semaine tapage entre deux années de festival, un auteur se rend dans les classes pour rencontrer les élèves, et cette année ce sera Philippe Gauthier qui viendra le 7 juin. Pour rencontrer les élèves qui ont lu sa pièce. Et c'est maintenant la fin de cette émission de Tap 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 qui est là, et on espère qu'elle vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Si vous voulez réagir, nous poser une question ou nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse théâtrealapage@gmail.com et nous vous répondrons avec plaisir. À très bientôt sur la 90.8 ou en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. C'était Marie Bernanos et Élise Roger pour Théâtre à la page.
Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Tap tap tap, ta la la 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 tap tap tap.
Oui, bon, tape. Oh, mais tape. Baissez-vous. Tape, si je veux.
Qui là?
C'était Théâtre à la page.